Europe 1, il est 19h. La Coupe du Monde de football, juste après le journal présenté par Hélène Zélani. Bonsoir.
Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. Retenez son nom, Sophie Adnot. Elle va devenir la première astronaute française depuis Claudie Aigneret. Cette pilote de l'armée de l'air vient d'être retenue dans la nouvelle promotion de l'Agence spatiale européenne, vous l'entendrez. Emmanuel Macron au chevet des maires de France, ils lui ont surtout fait remonter des problèmes d'énergie et d'inflation. Dans ce journal, la femme du député LFI Adrien Quatennens lance de nouvelles accusations de violence contre lui. Le témoignage très fort d'une collègue de l'agent du fisc assassiné, mais aussi les manifestations en Chine, dans la plus grande usine d'iPhone au monde. Et puis, au Mondial, surprenante défaite de l'Allemagne contre le Japon. Des Allemands qui, en dépit de l'interdiction, ont fait passer un message politique. Bonsoir Marlène Duret.
Bonsoir Hélène.
La tendance météo.
Alors, une accalmie temporaire demain, avant le retour de nouvelles pluies dans le Nord-Ouest et le Pays Basque. Ce sera dans l'après-midi. Ensuite, le temps redevient sec vendredi, samedi. Et à nouveau, une nouvelle perturbation pluvieuse balayera le pays dimanche et lundi. Rendez-vous à la fin du journal pour les prévisions de ce jeudi.
Europe 1. Qui pour succéder à Thomas Pesquet? Ils étaient 22 500 à postuler pour devenir les nouveaux astronautes de l'Agence spatiale européenne. 5 ont été choisis, 2 femmes et 3 hommes. Parmi les heureux élus, une Française. Elle s'appelle Sophie Adnot, elle a 40 ans. Et elle est pilote d'essai d'hélicoptère. Vous venez de la rencontrer lors d'Autriche.
Oui, elle dégage une force tranquille, le visage souriant, la voix posée, les pieds bien ancrés dans le sol. Sophie Adnot est ingénieure de formation. Elle est la première femme pilote d'essai d'hélicoptère dans l'armée de l'air. Sophie Adnot a grandi en Bourgogne et elle réalise aujourd'hui, en devenant astronaute, son rêve de toujours.
Le rêve, il devient même pas concret aujourd'hui parce qu'on a du mal à se rendre compte de ce qui se passe en réel. J'y ai travaillé, ouais, j'ai beaucoup travaillé. Tout est à construire. En tout cas, pour moi, c'est un grand saut dans l'inconnu. Je pense que j'ai grandi avec l'âme d'une exploratrice, toujours essayer d'aller chercher un petit peu plus loin ce qui se passe et puis revenir auprès de ses pairs avec un œil nouveau. Ma sœur me dit souvent, en plaisantant, elle me dit, mais quand tu étais petite, le seul poster qu'il y avait dans ta chambre, c'était un poster d'une fusée. Donc oui, j'y pense depuis un petit bout de temps.
Alors, Sophie Adnot est maman d'un petit garçon. Parmi ses modèles, il y a la physicienne Marie Curie et l'astronaute Claudie Aigneret, première femme à être allée dans l'espace. Maintenant, place à l'entraînement. Elle va déménager à Cologne, en Allemagne, où se trouve le Centre européen des astronautes. Elle sera formée aux sciences de l'espace et commencera les entraînements avec beaucoup de sport, des stages de survie ou encore des vols paraboliques. Elle ira dans l'espace pour la première fois sans doute dans 4 ou 5 ans.
Lors d'Autriche et lors de la présentation de cette nouvelle génération, Thomas Pesquet leur a conseillé de bien s'accrocher. Lui ont-ils demandé la Lune? Emmanuel Macron est allé au contact des maires de France réunis à Paris pendant près de 4 heures. Il a parcouru les allées du parc des expositions de la Porte de Versailles, Jacques Serret.
Oui, pas de discours cette année. Emmanuel Macron passe de stand en stand dans les allées du salon pour mieux afficher, dixit l'Elysée, sa volonté d'aller au contact. Et c'est sur l'explosion des prix de l'énergie qu'il est d'abord interpellé.
Nos villes sont vraiment prises à la gorge. Et honnêtement, on a les écoles où tout le monde est à 19 degrés, 18-19 degrés, donc les enfants sont dans une mauvaise situation. Les gymnases, les associations ont l'impression de revivre un confinement après 2 ans d'extrême difficulté, donc on a vraiment besoin d'eux.
Le chef de l'État temporise, tente de rassurer. Quelques pas plus loin, c'est sur la sécurité qu'un maire lui demande davantage de moyens.
Trafic de drogue, incivilité, délinquance, c'est pas simple.
Et vous avez touché des forces
On a besoin de renforts de gendarmerie.
Et devant un élu démuni, Emmanuel Macron fait ce constat. Nos maires, aujourd'hui, sont les premiers exposés à la violence.
Nous devons tous éradiquer la violence sous toutes ses formes. C'est le combat du moment. Et des années qui viennent, c'est un combat de civilisation démocratique qui sont les maires.
Et Emmanuel Macron n'en a pas fini avec les maires. Ce soir, une réception est organisée au Palais de l'Élysée.
Et j'ajoute, Jacques, qu'Emmanuel Macron a été interrogé sur la corrida. Il n'y aura pas d'interdiction demain, comme réclamé par la France insoumise. Mais il promet une conciliation, un échange. La France insoumise, parlons-en justement, elle est à nouveau secouée par l'affaire Quatennens. L'épouse d'Adrien Quatennens lance aujourd'hui de nouvelles accusations contre le député du Nord. Elle dénonce des violences physiques et morales exercées depuis plusieurs années. Alexandre Chauveau, on peut dire ce soir que le le retour d'Adrien Quatennens à l'Assemblée est désormais très compromis.
Oui, il faut dire que les déclarations de sa femme sont sans concession, alors que le député avait avoué en septembre dernier avoir donné, je cite, « une gifle dans un contexte d'extrême tension et d'agressivité mutuelle ». Céline Quatennens réplique et affirme qu'elle subit depuis plusieurs années ses colères et ses crises. « J'ai voulu demander le divorce à 3 reprises, mais sous la pression, j'y ai renoncé à chaque fois », ajoute-t-elle. Adrien Quatennens, lâché cette fois par sa famille politique, à la France Insoumise, mais aussi dans toute la NUP, à l'image de Raquel Garrido, députée LFI de Seine-Saint-Denis.
Je pense que tout le monde doit respecter la parole de Céline Quatennens. Ça confirme également la pertinence de la suspension d'Adrien Quatennens. Et ça ne me donne pas l'impression que ce sont des faits qui seraient à même de remettre en cause ces décisions-là, donc qui pour moi doivent être du coup confirmées.
Alors il faut préciser qu'Adrien Quatennens nie ses accusations. Son avocate explique que le témoignage de sa femme intervient dans le contexte du divorce du couple et alors qu'aucun accord, ni financier ni pour la garde de leur enfant, n'a encore été trouvé. Elle rappelle enfin qu'après avoir pris connaissance du dossier, la procureure de la République n'a pas renvoyé Adrien Quatennens devant un tribunal, mais l'a simplement convoqué à une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Marine Le Pen, invitée tout à l'heure de Laurence Ferrari sur Europe 1, estime que LFI devrait exclure Adrien Quatennens de son groupe. À midi pile tout à l'heure, tous les centres des impôts de France ont observé une minute de silence, idem à Paris au ministère de l'économie. Un hommage à l'agent du fisc tué lundi lors d'un contrôle chez un brocanteur près d'Arras. Émotion toute particulière, mais aussi colère chez ses collègues d'Arras, justement, comme cette femme qui préfère rester anonyme. Nous avons donc modifié sa voix.
On sait qu'on fait un métier qui est difficile, qui est particulier. Mais moi, ce que j'aimerais vraiment aujourd'hui, c'est que l'administration, l'État, prennent conscience que notre métier est difficile. Il faut changer la loi. Il y a des procédures, il y a des possibilités juridiques pour protéger l'ensemble des vérificateurs. On ne peut pas envoyer comme ça les agents des finances publiques chez les gens, parce que le siège social se trouve chez les gens, et les condamner. Et j'espère vraiment que la mort de Ludovic aura malheureusement au moins permis ça. Aujourd'hui, c'est lui à Arras. Demain, ça sera n'importe qui de chez nous. La violence monte dans notre société. On a souvent l'impression de passer, nous, pour les méchants, alors qu'on fait juste notre travail. On est des administratifs. On est censé être les garants de l'équité fiscale. Qui veut mourir pour l'équité fiscale? Qui veut mourir pour des chiffres mis dans un tableau? Nous, on a jamais fait les cow-boys. Hein. On a toujours expliqué la démarche qu'on avait. On a toujours dit aux gens... Voilà, on est là pour en discuter, il n'y a jamais rien de définitif. Ce qui s'est passé n'a pas de sens. Et terrible, on est tous un peu sans voix, on est sous le choc et sans voix.
Voilà un témoignage recueilli à Arras par Maximilien Carlier. Il est 19h08 sur Europe 1. On va marquer une petite pause et on va parler de ces manifestations réprimées dans la violence en Chine dans la plus grande usine d'iPhone au monde.
Europe 1, la suite du journal. Hélène Zélani.
Et on vous emmène en Chine. Des centaines d'employés ont manifesté dans la plus grande usine de fabrication d'iPhone au monde. C'est dans le centre du pays, une usine qui appartient au Taïwanais Foxconn. Ils dénonçaient leurs conditions de travail aggravées par les mesures anti-Covid très strictes. La police anti-émeute est intervenue. Le récit de Sébastien Lebelzik, le correspondant d'Europe 1 à Pékin.
Les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux montrent des centaines d'ouvriers affronter la police anti-émeute, image rare en Chine de manifestations. Cette usine de Zhangzhou, surnommée iPhone City, emploie en temps normal plus de 200 000 ouvriers. C'est la plus grande usine d'iPhone du monde. 200 millions de téléphones y sont fabriqués chaque année. Mais les ouvriers se plaignent des faibles salaires et des conditions de travail. Ils se plaignent également des mesures très contraignantes mises en place en raison du Covid. Les ouvriers doivent en effet rester sur le site et travailler dans une bulle en circuit fermé. Fin octobre, plusieurs milliers d'entre eux s'étaient échappés de l'usine pour fuir ces contraintes. Foxconn, le principal sous-traitant d'Apple qui gère le site, avait promis des primes pour recruter de nouveaux ouvriers, mais en vain. La production d'iPhone pourrait chuter de 30% cette année, d'où des cadences infernales imposées dans l'usine. Des cadres du Parti communiste ont même été réquisitionnés pour renforcer les lignes de production. À Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
Et aujourd'hui, le mot-clé « émeute Foxconn » est censuré sur les réseaux sociaux chinois. La presse locale n'en parle pas. 70 missiles russes se sont encore abattus sur l'Ukraine aujourd'hui, entraînant d'importantes coupures d'électricité et d'eau, notamment dans la capitale Kiev, où au moins 6 personnes ont été tuées. Le président Zelensky s'adressera ce soir au Conseil de sécurité de l'ONU, réunion d'urgence qu'il a lui-même réclamée. Et puis le terrorisme en Israël, deux attaques à la bombe à des arrêts de bus de Jérusalem ont fait un mort, un adolescent de 15 ans, ainsi qu'une quinzaine de blessés. On revient en France, c'est la semaine de la réduction des déchets. Illustration avec la marque Petit Bateau qui vient de lancer un nouveau service, la location de vêtements pour les bébés de la naissance à 2 ans. On compose une box de plusieurs articles qui seront ensuite reloués à d'autres personnes. Tout le monde y trouve son compte, explique le patron de Petit Bateau, Guillaume Darouzet.
Un bébé grandit très vite et donc les vêtements ont une durée d'usage très faible par rapport à la durée de propriété. Donc on s'est dit que la location était une bonne façon à la fois pour le client d'économiser de l'argent, hein, puisque c'est un produit plus accessible quand on le loue, mais aussi une praticité et de ne pas encombrer les armoires. Le vêtement le plus durable, c'est celui qui n'est pas produit. Pourquoi ? Parce que 60% des gaz à effet de serre d'un vêtement, c'est la matière. Donc quand on réutilise un produit, forcément, on diminue l'empreinte carbone de l'industrie.
Le patron de Petit Bateau, au micro d'Elisabeth Assayag, dans La France Bouge sur Europe 1. Et si ça vous intéresse, rendez-vous sur le site locationpetitbateau.com. Le mondial maintenant et cette nouvelle grosse surprise, l'Allemagne battue par le Japon 2-1. Et oui, après l'Argentine défaite par l'Arabie Saoudite, c'est encore une grande équipe qui se fait surprendre. Des Allemands qui, sur la photo d'avant-match, se sont ostensiblement mis la main devant la bouche parce qu'on les empêchait de porter le fameux brassard arc-en-ciel One Love. Jean-François Pérez, vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux au Qatar. Nouvelle journée compliquée pour la FIFA.
Ah oui, même si elle ne concerne que quelques pays, on va dire que c'est un vent de révolte qui souffle contre l'instance mondiale du foot. Ce brassard arc-en-ciel interdit juste avant le début du tournoi est quasiment devenu un enjeu géopolitique. La FIFA a menacé les capitaines qui l'arboreraient d'un carton jaune, les mettant en sursis pour le reste des matchs. Alors l'Europe a plié, mais certaines nations résistent, font preuve d'inventivité. Vous l'avez dit, hein, le geste de l'équipe allemande qui a déjà fait le tour de la planète. Nous priver de brassard, c'est nous priver de liberté d'expression, a ainsi tweeté la Fédération allemande. Mais que dire de celui de la ministre allemande de l'Intérieur qui a pris place en tribune aux côtés du président de la FIFA, vêtue d'une veste, puis elle l'a enlevée, laissant apparaître sur son bras le fameux brassard arc-en-ciel et postant le tout sur les réseaux sociaux. Un ange est passé. Outre l'Allemagne, le Danemark est également en pointe dans ce combat. Si le pays scandinave a démenti vouloir quitter la FIFA dans l'immédiat, comme les rumeurs le laissaient entendre aujourd'hui, le président de la Fédération danoise a été clair. Il ne votera plus pour Gianni Infantino, actuel patron du foot mondial, et il annonce une consultation des pays nordiques et plus globalement européens pour faire bouger les lignes. Cela ressemble à un ultimatum.
Jean-François Pérez, en direct de Doha pour Europe 1. Ce matin, le Maroc et la Croatie se sont séparés sur un match nul, 0-0. Et ce soir, l'Espagne a écrasé le Costa Rica 7-0. Rendez-vous dans moins d'une heure pour le dernier match de la journée dans Europe 1 Sport, Belgique Canada. Les marchés financiers maintenant avec Claire Lemaître de boursier.com. Paris termine en petite hausse.
Oui, le CAC 40 gagne encore 0,3% à 6678 points. L'activité est quand même restée limitée dans l'attente du compte rendu de la dernière réunion de la Fed, de documents qui pourraient en dire plus ce soir sur la politique monétaire américaine. Et puis peu d'échanges aussi parce que Wall Street sera fermé demain, fermeture pour Thanksgiving. C'est donc très calme en Europe. Londres gagne 0,2%. Francfort et Milan sont stables, Madrid plus 0,1 et le CAC 40 avance donc de 0,3% à la clôture.
Merci Claire Lemaître. Le temps, Marlène Duret, calme avant le retour de la pluie par l'ouest.
Et oui Hélène, alors il y aura une réactivation des averses cette nuit hein, sur la moitié nord, ensuite retour au calme, vous l'avez dit, et ces averses, on les retrouvera, sachez-le quand même, demain matin entre la Lorraine, l'Alsace et la Franche-Comté sous un ciel chargé. Ensuite l'amélioration se fera évidemment dans l'après-midi. Sur le reste du pays, eh bien, hormis quelques petites averses anecdotiques près de la frontière belge et dans le sud de la Bretagne, la matinée s'annonce variable, calme, avec un petit peu de grisaille locale, des éclaircies plus ou moins larges, parfois un beau soleil, hein, ce sera le cas dans le sud-est et en Corse. Et puis l'évolution en journée, on a des nuages qui vont gagner la façade ouest du pays, nouvelle perturbation donc qui va apporter les premières pluies sur le nez breton avant de se décaler vers la Normandie et les Pays de la Loire. C'est une perturbation à deux étages puisqu'il y aura une partie qui va arriver dans le Pays basque. Les pluies progresseront ensuite en soirée vers les Pyrénées centrales et le midi toulousain. Au niveau des températures, les maximales afficheront le plus souvent 11 à 15 degrés sur une grande moitié nord. comptez 14 à 17 dans le sud-ouest et 15 à 20 près de la Méditerranée. On est 1 à 4 degrés au-dessus des moyennes de saison.
Merci Marlène. Prochain rendez-vous avec la météo dans le journal de 23h. Dans un instant, place à Europe 1 Sport.